Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Le monde entier a les yeux rivés sur l'Ukraine et sur la Russie. Les clés de la situation se trouvent sans doute à Moscou. Cet après-midi, c'est une immersion dans la Russie d'hier et d'avant-hier que nous propose Franck Ferrand en compagnie de sa prestigieuse invitée. Bonjour Franck.
Bonjour Céline, bonjour à tous. Nous allons évoquer le fantôme d'Ivan le Terrible, personnage effrayant comme l'indique son nom, et qui a été le premier souverain moscovite à se parer du titre de tsar. Parler d'Ivan, c'est donc évoquer les origines même de ce grand pays au cœur de l'actualité. Et pour nous y aider, je n'imaginais pas d'autre invité qu'Hélène Carrère-Dancos, secrétaire perpétuelle de l'Académie française. Madame Carrère-Dancos est probablement en France celle qui sait le mieux nous faire comprendre ce pays fascinant, ce pays parfois inquiétant, je vous l'accorde.
Et à la fin de l'émission, Franck vous répondra à la question de Tristan sur les origines des comptines pour enfants.
Oui, on songe à d'anciennes comptines russes. Vous savez que le conte fait partie intégrante de la culture populaire russe. L'homme dont nous allons parler aujourd'hui se trouve être le prédécesseur du tsar Boris. On entendra tout à l'heure un extrait de Boris Godounov. Ivan Grozny, le terrible, le terrifiant.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
C'est un très vaste jardin public qui se déploie dans la banlieue sud de la capitale russe. D'ailleurs, les moscovites ont l'habitude de venir s'y détendre le dimanche. L'administration fédérale des monuments historiques y a regroupé toutes sortes d'édifices, civils certes, mais surtout religieux, qui ont été déplacés jusqu'ici et remontés pierre par pierre, parfois planche après planche, sur des pelouses vallonnées, de sorte que l'ensemble est devenu un conservatoire à ciel ouvert de l'architecture russe traditionnelle. Si vous faites l'effort de gravir les sentiers et les allées de ce parc, car cela grimpe assez fortement, pour peu que vous vous aventuriez assez loin dans cette verdure, vous serez récompensé. En effet, vous allez finir par atteindre un promontoire majestueux en surplomb d'une boucle de la Moscova, une sorte d'observatoire naturel occupé par le plus magnifique clocher d'un pays qui par ailleurs en compte une multitude. La tour octogonale pointue, superbe à vrai dire, de l'église toute blanche de l'Ascension. Cette flèche impressionnante a été bâtie dans la première moitié du XVIe siècle en l'honneur d'un héritier du trône de Moscou né en ces lieux à Kolomenskoye le 25 août 1530. On le nommera Ivan Vassilievitch. Il devait devenir Ivan IV, grand prince de Moscou, le premier des tsars. À l'époque, on a voulu voir un précieux augure dans la naissance de cet enfant à Kolomenskoye, à l'endroit même où la tradition veut que Saint Georges, le saint patron des moscovites, ait terrassé son fameux dragon. Pour ma part, je me rappelle avoir découvert ce site par un jour gris, sous un ciel menaçant, et je me souviens d'avoir eu le sentiment vraiment de remonter le temps sous la charpente de l'immense galerie qui fait le tour de l'église. Je me suis approché, le cœur battant, du formidable trône de pierre installé là, face à Moscou, dont les bulbes dorés devaient autrefois scintiller dans les lointains, ce trône qui donc a été celui du tyran. J'emploie ce terme à dessein, c'est l'image que nous avons de lui. Quand on cherche à se représenter Ivan le Terrible, difficile aujourd'hui de se défaire de la vision imposée par l'acteur Tcherkassov dans le beau film très stylisé, très graphique de Sergei Mihailovitch Eisenstein, un film que je revoyais hier soir pour la je ne sais combienième fois. C'est toujours aussi frappant et toujours aussi envoûtant. Vous avez le profil émacié, les yeux noirs de jais, le nez très droit, la barbe en pointe, aussi pointue que le regard d'autorité, de dureté, de cruauté contenue du premier tsar, c'est l'interprétation magistrale de Tcherkassov qui, évidemment, a contribué à forger dans nos esprits, à tous, l'image du tsar. Pour peu qu'on ouvre les bons livres, on y découvrira le même portrait sans nuance, volontiers taillé à la serpe. Je songe à la biographie très enlevée de Henri Troyat qui brossera d'Ivan le portrait le plus pervers. Je le cite. « La bête apparaît derrière l'homme », écrit-il à propos du bourreau de la cité de Novgorod. « Les suppliciés se tordent, hurlent, grimacent, oublient toute dignité. Coupables ou innocents se valent. Vous pouvez d'un mot arrêter leur tourment et vous ne le faites pas. Et la jouissance en vous augmente à mesure que l'autre est ravalé au plus bas. » Et Henri Troyat va même plus loin. Quelle meilleure préparation à l'amour et à la prière, demande-t-il. C'est assez étonnant comme rapprochement, mais ça fait partie intégrante de la thèse qu'il développe dans cette biographie. Il nous dit, Henri Troyat, ayant roué de coups, écorché, tenaillé, écartelé, rôti, on s'enfonce dans la femme ou en Dieu avec une vigueur nouvelle. La boucherie et l'office divin se complètent. Ivan est violent au point d'écumer comme un cheval, écrivait de son côté Henri Valotton. Henri Valotton était ministre de la Suisse dans les années 1950 et il a écrit de très belles biographies d'un certain nombre des souverains orientaux. Ses cruautés, le terrible les admet, écrit-il, les confesse publiquement, les proclame. Il se traite lui-même de chien puant, de damné, de criminel, de voleur, d'adultère. Mais il est bien décidé à continuer. Il aime tourner ses familiers en ridicule, faire souffrir ses sujets, les railler, leur rappeler en toutes circonstances qu'ils sont ses esclaves. Ivan IV est inhumain. Rien que ça. Inhumain, nous dit Henri Valotton. Alors c'est vrai que ce qu'il y a peut-être de plus frappant chez ce tsar Ivan, c'est cette capacité qu'il a à se mettre plus bas que terre par moment. Voilà ce qu'il écrit dans le testament qu'il dicte en 1572. Je cite les termes mêmes du testament d'Ivan le Terrible. « Je suis immonde dans le corps et dans l'âme », écrit-il. « En effet, au lieu de respecter les lois divines de Jérusalem, j'ai suivi les passions de Jéricho. Et pour pouvoir goûter les joies terrestres, je me suis laissé séduire par la beauté éphémère de ce monde. J'ai pris ainsi le parti des citoyens de ce monde, l'esprit ébloui par le pourpre et de la gloire et l'étincelle de l'or. » Je suis devenu plagiaire d'esprit et d'essence dans le songe et dans la réalité. On m'a retiré la grâce et je suis resté meurtri par les blessures. Mais même alors, mes yeux ne se sont pas ouverts. Mes actions sont infâmes, ajoute Ivan lui-même. Je suis fétide et immonde et pire qu'un cadavre. J'arrête là parce que le reste de la description est à peu près aussi horrible que les crimes qu'on lui impute. Immonde, inhumain. Voilà des termes assez étonnants. Est-ce que c'est tellement certain? Je pose la question. Et si les historiens s'étaient complus à concentrer sur la mémoire de ce souverain toutes les vilainies possibles? Est-ce qu'ils n'auraient pas en quelque sorte un peu chargé le portrait de la personne pour en faire un personnage? C'est ce que laisse entendre un certain nombre de jugements émis par des témoins visuels, des gens de l'époque. Par exemple, cet ambassadeur d'Angleterre qui voyait dans Ivan, je le cite, « un roi incomparable, adoré et redouté dans le même instant, le meilleur administrateur de son siècle, aimable, érudit et aimant. » C'est un peu sa tranche comme point de vue. Si soit on ne parle pas du même homme, soit on ne parle pas de la même époque de son règne, la vérité, à mon avis, doit se situer sans doute à peu près à mi-chemin entre ces deux réserves.
Sur Europe 1, un extrait de la bande originale du film Ivan le Terrible. C'était « Je serai tsar ». Ivan le Terrible dont vous nous parlez, Franck Ferrand.
Alors c'est Ivan qualifié de terrible et en même temps c'est le surnom qu'on lui donne dans toutes les typologies. Vous savez, il est le grand rassembleur de la terre russe. Dans un instant, avec Hélène Carrère-Dancos, nous verrons pourquoi ce surnom. Il écrit donc en 1572, à l'âge de 42 ans donc. On est à un moment, un tournant de son règne, et là aussi nous verrons tout à l'heure pourquoi. Il écrit cette espèce d'autocritique, si j'ose employer un anachronisme qui n'est pas neutre dans une émission comme celle-ci. Il se flagelle lui-même. Il faut vous dire que c'est un personnage qui est sans doute d'une très grande et très fine intelligence, on y reviendra, un ouvrage paru récemment permet de s'en faire une idée tout à fait précise, qui est d'une grande et profonde culture, quoique c'est une culture assez particulière, mais surtout, et c'est le plus étonnant, un personnage qui est assez déstabilisé mentalement. Il ne contrôle pas du tout ses colères. Il est capable de basculer d'un instant à l'autre dans les pires excès, et il n'y a rien chez un tyran de plus effroyable que ça, bien entendu, puisque vous imaginez que dans son entourage, on ne sait jamais sur quel pied danser. C'est assez effroyable. Son père est mort alors que lui-même n'avait que 3 ans, hein. C'était Vassili III, grand prince de Moscou. Donc, Ivan devient Ivan IV, grand prince de Moscou à son tour, dès le berceau, et sa mère, Hélène Glinka, va mourir alors qu'il n'a que 8 ans, et l'on a soupçonné les boyards de l'avoir empoisonné. Du reste, le premier acte véritablement décisif, autonome d'Ivan, alors qu'il n'a que 13 ans, ça va être de lâcher ses chiens de chasse, il faut imaginer des dogues féroces qui vont dévorer sous ses yeux son principal conseiller, André Chouïski en l'occurrence. Bon, oui, il a commencé tôt dans ce genre-là. Le 13 décembre 1546, ça veut dire qu'il a à peine plus de 16 ans, il déclare devant l'assemblée des boyards que, en tant que descendant des empereurs byzantins, il faut vous dire que par son aïeul paternel Sophie Paléologue, effectivement, il descend des Basileïs, hein, des empereurs de Byzance. Il peut prendre lui-même le titre de César, qu'on va donc dire Tsar ou Tsar en russe. Après la première Rome, après la deuxième Rome qui était donc Byzance, voilà, la troisième Rome, c'est Moscou, et c'est bien ainsi, c'est dans cette lignée-là que s'inscrit Ivan le Terrible. Alors, il ne faut pas oublier non plus qu'on n'est pas très longtemps après la chute de Constantinople et qu'il fallait en quelque sorte qu'une capitale reprît le flambeau. Nous verrons tout ça tout à l'heure, bien entendu. Il est sacré le 15 janvier 1547. Il est à la tête là déjà d'un empire assez important. Il épouse Anastasia Romanovna, qui est de la famille Romanov, qui plus tard montera elle-même tout début du XVIIe siècle, montera sur le trône de Russie. En juin 47, Moscou est en feu. Et qui est accusé? Eh bien, c'est la grand-mère maternelle d'Ivan. Vous voyez donc le climat extrêmement perturbé de ce début de règne, qui pourtant va être relativement prospère. On peut dire, et rappelez-vous le point de vue de cet ambassadeur d'Angleterre, le point de vue en question date de 1550, donc à ce moment-là, Ivan a 20 ans. À 20 ans, il est considéré comme un très grand administrateur, comme un homme aimant. Il est bientôt le conquérant de Kazan, d'Astrakhan. Tout de même, après Kazan, en 1553, il tombe malade, et alors là, il faut songer à sa succession, et le moins qu'on puisse dire, c'est que la succession est complexe, elle est perturbée, et les boyards conserveront gravé, on peut dire vraiment au fer rouge, hein, dans leur chair, ils conserveront marqué le souvenir de cette crise de 1553, où ils ont cru pouvoir reprendre le pouvoir, et où le tsar, sitôt rétabli, a fait régner une terreur sans précédent. Alors, il faut vous dire que pendant tout ce début de règne, il ne va cesser de voir les gens le trahir, ce pauvre Ivan. Je pense notamment à la trahison de celui qui aura été l'un de ses tout premiers conseillers, Sylvestre, qui va se dresser littéralement contre la campagne de Livonie en 1558, soutenu par ailleurs par un autre conseiller, Alexei Adachev. Et ça, c'est la rupture, en quelque sorte, avec le premier cercle. Et c'est une sorte de basculement, un basculement qui va être précipité par la mort, en 1560, d'Anastasia, qui est donc l'épouse d'Ivan. Et là, on peut dire qu'il bascule dans ce que certains n'ont pas hésité à considérer comme une certaine folie. Selon lui, Anastasia a été empoisonnée par Sylvestre et Adachev ou par des hommes qui étaient à leur solde. En fait, elle était malade depuis 18 mois. Mais les deux anciens conseillers, accusés de sorcellerie, sont enfermés et mis à mort avec des raffinements de cruauté dont je vous passe la description. C'est assez terrible, au point que les rares conseillers qui restent dans l'entourage d'Ivan ne vont avoir de cesse que de s'enfuir à leur tour. Je pense à Kourtsky, bien entendu, dont nous allons reparler, puisque c'est à Kourtsky que s'adressent les terribles lettres à un félon qui sont éditées depuis, enfin qui viennent d'être rééditées par les éditions de l'œuvre. Alors Kourtsky s'enfuit en Pologne, il va passer au service du roi Sigismond. Tout ça entretient évidemment chez Ivan, qu'on peut désormais appeler Ivan le Terrible, une espèce de paranoïa. Et alors on a ce tsar qui est à la fois très religieux mais en même temps très cruel, qui se livre à des démonstrations d'extrême rigueur qui frisent souvent l'ascétisme et qui dans le même temps est capable de se livrer au pire débauche. Il va d'ailleurs accumuler les maîtresses et les amants. C'est un homme qui se complaît dans une forme d'amusement, d'étourdissement. Il veut que sa cour soit le centre de tous les amusements. Vous imaginez comme les courtisans ont envie de s'amuser avec un tel maître. Alors il fait venir des montreurs d'ours, des marionnettistes, des ventriloques, etc. Tout ça le fait beaucoup rire. Il a le rire gras et puissant et il entend qu'on rit de la même manière. Je crois qu'il n'y a finalement rien de plus sinistre qu'un homme puissant et dangereux, qu'un tyran qui veut rire et qui exige des autres qu'il rie. C'est assez terrible. Alors, la colère d'Ivan et ses colères sont célèbres, bien entendu. Et à partir de janvier 1565, il se sent lui-même tellement menacé qu'il va créer cette espèce de garde prétorienne, ce corps des Oprichniki. Au départ, il y a 300 combattants qui ont été triés sur le volet. Et puis, bien entendu, cette garde ne va cesser de croître. Elle avait vocation à croître, du reste. 1000 au bout de 2 ans, ils seront bientôt 6000. Ils seront près de 10 000 à la fin du règne d'Ivan le Terrible. Autant dire qu'il est à la tête d'une sorte d'armée entièrement passée à sa dévotion.
Chers auditeurs, que vous pouvez réagir tout au long de l'émission. Nous envoyez vos messages, vos questions sur Ivan le Terrible par mail sur europe1.fr, Twitter, celui de Franck Ferrand ou hashtag SCDH ou encore sur la page Facebook de l'émission où nous venons aujourd'hui de passer la barre des 25 000 fans. Un grand merci à tous pour fidélité.
Merci à tous, ça fait très plaisir. Je crois qu'au tout début de l'année, nous étions environ 5 000, donc ça fait 5 fois plus.
Oui, continuez. Dans un instant sur Europe 1, la suite de votre récit Franck Ferrand sur Ivan le Terrible.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Et nous revenons avec vous, Franck Ferrand, à votre récit sur Ivan le Terrible.
Et il est de plus en plus terrible, cet Ivan. On peut dire que parmi les boyards, parmi les princes de la cour, c'est une véritable hécatombe à laquelle on assiste. Bielski, Mtislavski, Vorotinsky tombent l'un après l'autre. Et alors à chaque fois, ils sont torturés. Je pense au prince Kachin, par exemple, au prince Kouliakov, qui sont torturés avec un luxe de raffinement. On les fait brûler à petit feu sur des braises. Enfin, c'est complètement, ça paraît même assez invraisemblable. On en est à se demander parfois si les chroniqueurs qui nous rapportent tous ces faits n'en auraient pas rajouté, mais il semble bien malheureusement que ce soit la vérité. Et alors il s'attaque aussi à ses propres cousins. Je pense à son cousin Tsaritsa, par exemple, etc. Et à côté de ça, vous avez un personnage qui fait constamment amende honorable, qui passe son temps à se rendre dans les monastères pour demander, l'absolution des prêtres, pardon, le mot m'échappait. Il s'installe notamment à la Sloboda d'Alexandrovskaya, une sorte de monastère qu'il a créé, dont les moines sont 300. La plupart ont été choisis d'ailleurs parmi les Oprichniki et le tsar devient en quelque sorte leur abbé. Et dès 4 heures du matin, il est là à organiser, à diriger lui-même les offices. Seigneur, ayez pitié de nous. Gospodi pomirui, il est constamment en prière, il s'abîme littéralement dans des méditations qui sont des méditations mystiques. Et parfois, l'abbé Tsar, si je puis dire, rend visite à un autre monastère. Et alors là, il arrive toujours avec une liste des personnes qu'il souhaite voir exécutées. Pour vous donner un exemple, et il y en aurait malheureusement de nombreux à fournir, la liste de Saint Kirill comprend quelque 3470 victimes. On est en train d'entrer dans une sorte de délire sanguinaire qui transforme la Russie en terre de souffrance. « Ayez pitié de moi, dit Ivan. » On a surtout envie de dire « Seigneur, ayez pitié de ses sujets. Il va aller comme ça jusqu'à tuer son propre fils. » Alors il faut vous dire qu'il avait, ses fils survivants devrais-je dire, il y avait le jeune Fédor qu'on voit d'ailleurs dans le film, qu'on voit beaucoup dans le film d'Eisenstein, qui est une sorte de débile léger, et puis il y avait Ivan, qui en 1581 à 27 ans, Ivan est lui-même un intellectuel, si j'ose employer l'expression. Il a écrit une vie de Saint Antoine, il a l'habitude d'assister à tous les conseils de son père. On dit qu'il assistait aussi volontiers aux tortures, entre nous soit dit. Il a été marié à Eudoxie Saburova, puis à Praskovi Salova, enfin à Hélène Cheremetiev. Et alors un jour, on est à l'automne 1581, on est à la Sloboda Alexandrovskaya, quand Ivan croise sa belle-fille, Hélène, qui ne porte qu'une robe. Or, le protocole de la cour dit qu'elle devrait en porter trois, mais elle est enceinte, cette femme. Il la rue de coups tellement bien qu'elle va faire une fausse couche. Le tsarevitch survient. Alors, je dis tsarevitch, on ne porte pas encore le titre à cette époque, mais peu importe. Il est absolument furieux, altercation. Son père va le frapper de sa crosse ferrée. Et le jeune homme va finir par mourir. « J'ai tué mon fils !» hurle Ivan. Et alors à ce moment-là, on arrive, c'est le dernier, l'ultime, et j'ai envie de dire salutaire basculement du règne. À partir de ce moment-là, on va voir Ivan faire repentance et redevenir beaucoup plus conforme dans ses pratiques et dans ses attitudes à ce qu'il a pu être dans ses prières. Il devient presque, je dis bien sur la fin de sa vie, il devient presque un saint homme. Nous verrons tout à l'heure avec Hélène Carrère d'Anco ce qu'il faut penser de cet ultime revirement du terrible. Bonjour Hélène Carrère d'Ancos.
Bonjour.
Je n'ai fait que survoler évidemment le règne, l'existence complètement chaotique de ce personnage qui a fait régner la terreur autour de lui. J'ai essayé de mettre l'accent sur quelques raies de lumière, car il y en a au milieu de tant d'ombre et d'obscurité. Avec vous, j'aimerais que nous revenions sur les grands aspects de ce règne et sur ce qu'il y a chez Ivan le Terrible de fondateur pour la Russie, on a envie de dire pour la Russie éternelle, pour la Russie que nous connaissons encore aujourd'hui.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Et nous sommes cet après-midi au cœur de l'histoire d'Ivan le Terrible avec vous Franck Ferrand et votre invité est Hélène Carrère d'Ancos de l'Académie française, historienne de la Russie.
Pierre Gonod, dans un récent ouvrage paru chez Talendier, une belle biographie, conclut par ces termes qui me paraissent importants. « L'ultime dimension d'Ivan le Terrible, qu'on le veuille ou non, écrit-il, est sa dimension actuelle de maître étalon de la tyrannie à la russe. La journée d'un oprichnik, œuvre de fiction de Vladimir Sorokine, parue en 2006, décrit le quotidien d'un membre de la police politique dans un pays russe à mi-chemin entre le XVIe et le XXe siècle, où l'on emploie encore le formulaire d'Ancien Régime pour la procédure, tout en roulant en automobile et en écoutant la radio. En substance, rien n'a changé. Raids nocturnes, arrestations, coups et pillages des biens de ceux qui ont déplu au souverain au cri de « Oïda ». Et à propos de cet Ivan le Terrible dont il vient de brosser un très long et assez nuancé portrait, voici ce que dit Pierre Gonod. Son fantôme hante toujours la Russie. Est-ce qu'on peut dire, Hélène Carrère d'Ancos, que le personnage est encore présent à l'esprit des Russes?
Non. Je dirais qu'on a démystifier son personnage et il a hanté les Russes à l'époque de Staline, là où il n'y a aucun doute. Tout le système stalinien rappelait ça exactement et la manière dont Ivan le Terrible se débarrassait de ses adversaires on en a un certain nombre d'épisodes évocateurs à l'époque de Staline. Par exemple, le meurtre de Trotsky par Ramon Mercader, qui rappelle exactement la course derrière Kourbski.
Nous avons raconté ça, je dis ça pour les amateurs de podcast, il y a quelques semaines, ce meurtre au Mexique.
Mais je crois que ça s'applique au passé, il faut tout de même être raisonnable.
Et on peut dire que Ivan a été d'une certaine manière réhabilité à l'époque stalinienne. Je parlais de ce film d'Eisenstein notamment, bien sûr.
Il a été réhabilité à l'époque stalinienne et après l'époque stalinienne, à la fin du stalinisme, il y a eu une réflexion des historiens, précisément pour remettre Ivan à sa place.
Alors, il faut essayer de le cerner, ce personnage, et nous allons le faire avec vous, si vous le voulez bien. Je cite un chroniqueur qui nous le décrit, large de poitrine et d'épaule, les traits réguliers, les yeux gris-bleus, la moustache longue et retombante, la barbe rousse abondante. Ivan n'est pas beau, mais il a de la prestance. On a quelques portraits de lui qui permettent de se faire une idée.
On a quelques portraits de lui, il y a des gravures. Et puis il y a le portrait qu'a fait par la suite à partir de gravures Répine, le grand peintre. Il avait l'air d'un aigle. C'est ce que l'on sait d'après un certain nombre de récits de chroniqueurs, notamment un nez busqué, extrêmement impressionnant. Il avait toujours l'air de foncer comme ça. Mais je crois que pour le comprendre, il faut d'abord regarder l'enfance, si vous le permettez.
Ça
me paraît très important parce que c'est tout de même, c'est un personnage très ambigu, on pourra y revenir, il n'est pas simple à cerner et son règne comporte vraiment deux époques contraires, mais je crois que l'enfance éclaire beaucoup de choses. Et les problèmes de la Russie au moment de son enfance éclairent beaucoup de choses. Lorsqu'Ivan le Terrible naît, il y avait un progrès politique formidable en Russie. On peut dire que jusqu'à Ivan III, son grand-père, qui avait épousé Sophie Paléologue, le pouvoir en Russie, c'était une affaire de clans. Ça se transmettait à l'intérieur de clans. Et tous les souverains se sont appliqués progressivement. Et Ivan III a achevé cette évolution, a créé un véritable système de transmission dynastique du pouvoir. Et il est arrivé à faire que le pouvoir se transmette du père au fils, selon une règle absolument intangible, et non plus que des frères s'exterminent.
C'était déjà un énorme progrès, ça, bien
c'était
entendu.
Un progrès considérable, ça c'est la première chose. La seconde chose, et c'est la raison pour laquelle Vassili, le père d'Ivan, décide que le pouvoir sera transmis à son fils, lorsqu'il meurt, bien que ce ne soit qu'un enfant de 3 ans.
Oui.
C'est un point extrêmement important, alors qu'au fond, les boyards, je vais revenir dessus, pèsent pour qu'on le transmette à un cousin qui, lui, est un adulte. Au fond, les luttes de clans sont prêtes à se réveiller. Le second point dont il faut avoir conscience, c'est que l'unité de la Russie est encore très fragile. Là aussi, Ivan III a achevé quelque chose, c'est-à-dire il a achevé un effort qui depuis plusieurs générations s'accomplissait, qui consistait à prendre en main les fameux princes apanagés, et qui avaient des principautés, des domaines, et chacun était totalement indépendant.
Oui.
Et les indépendances ont été réduites, et quand Ivan III naît, Ivan IV naît, oui. On peut dire que déjà les terres russes ont commencé à être rassemblés et les princes apanagés n'ont plus d'autorité vraiment. Ce qui fait que quand il se trouve en présence d'un jouvenceau de d'un bébé de trois ans, évidemment, il pense que c'est l'occasion pour repartir à l'assaut du pouvoir. Ça, c'est absolument. Et en tout cas, pour affaiblir le pouvoir central et reprendre leur indépendance.
Et pendant toute son enfance et pendant son adolescence, ce pauvre Ivan va constamment craindre pour sa vie. Et sans doute lui transmettons autour de lui cette crainte. Les nourrices, les gouverneurs lui disent « Attention, il vit dans une forme déjà de crainte. »
La première chose, c'est que sa mère est régente, Hélène Glinska. Et cette femme va se battre bec et ongles pour le pouvoir de son fils et pour le sien. Et elle le fait en exterminant les membres de la famille de son mari, notamment l'oncle de son mari, et elle le fait en exterminant même des membres de sa propre famille, de façon à écarter tous ceux qui peuvent nuire au pouvoir de son fils, ce qui fait que ce pauvre enfant, elle est morte en 1538, alors qu'il avait tout juste 8 ans, mais après 5 ans, je dirais, de son règne, théoriquement.
Sa régence.
De sa régence et du règne théorique de son fils, puisqu'elle est régente. Et elle est morte, évidemment, le soupçon est immédiat qu'elle a été empoisonnée. Elle est morte dans de souffrances épouvantables, on s'est débarrassé d'elle, c'est incontestable. Mais cet enfant a vécu en voyant assassiné autour de lui. Et ensuite, il vit avec les oncles et tout le monde, les boyards qui essayent de reprendre du terrain. Et il sait que son pouvoir futur est menacé. Alors, c'est un enfant, et ça, il faut le dire, qui est tout à fait contradictoire. C'est un enfant cruel, il martyrise des animaux, on a des récits terrifiants de ça. On peut dire qu'il est marqué par ça, un enfant peureux, et en même temps, un enfant extrêmement intelligent, qui lit. Ça sera un autodidacte, ça sera un homme de très grande culture, mais qui ne connaît que le russe, son éducation a été totalement négligée. Il ne connaît aucune langue classique. Il ne connaît que le russe, mais il lit énormément, et notamment, et c'est très important pour la suite, vous avez évoqué déjà son attraction pour le monde de l'au-delà, il lit énormément d'ouvrages religieux. On peut dire que sa formation est principalement une formation théologique, et ça compte beaucoup. Donc il y a cette contradiction entre la cruauté et l'exigence de perfection qu'il impute à Dieu.
Il va commencer son propre règne par un certain nombre de bonnes réformes administratives. Il réunit les états généraux, ce qu'on appelle le Zemsky Sobor en Russie.
Il faut dire juste un mot. À l'âge de 17 ans, en 1547, d'abord, il se fait couronner. Il était jusqu'alors grand prince de Moscou. Et ce qui est très important, il faut le dire, il se fait couronner tsar de toute la Russie. Comme le patriarche et le patriarche de toute la Russie. Vous voyez, on passe de la dimension de Moscou à toute la Russie, c'est-à-dire qu'il réaffirme l'autorité du souverain sur toute la Russie et sur les princes apanagés. Il se marie en même temps avec Anastasia, qui jouera un rôle, Anastasia Romanov, qui jouera un rôle très bienfaisant auprès de lui. Ça sera un mariage qui durera 13 ans et qui sera très heureux. Ils auront plusieurs enfants, dont trois fils. Le premier, Dimitri, on va y revenir, Ivan, celui qui l'assassinera, et le troisième, Fiodor, qui était un petit peu débile. Mais il est marqué, alors à ce moment-là, par un désir, il prend le pouvoir en main, il décide que c'est lui le souverain, et il accomplit beaucoup de choses. Alors d'abord, il convoque un concile, et c'est très important, pour mettre de l'ordre dans la vie de l'Église.
Oui.
Oui, et il y a eu très peu de conciles, il y a eu quatre conciles en Russie, jusqu'à la Révolution. Ce concile qui s'appelle le concile des 100 chapitres, Stoglav, met de l'ordre complètement dans la vie religieuse, y compris, il dit, la longueur des barbes des ecclésiastiques, etc. Il se prononce sur tout. Et puis il convoque le Zemsky Sobor, c'est-à-dire ce sont des états généraux. Alors il y avait la Douma jusqu'alors, la Douma des boyards, qui était au fond, qui avait été depuis Kiev le conseil du souverain, et qui était élargi à la noblesse, à des artisans, à des citadins, et plus tard qui sera élargi aux paysans. Mais pour la première fois, on convoque ces états généraux en 1549, et ces états généraux vont faire un grand nombre de réformes. D'abord, ils font un code des lois. Il y avait un premier code des lois qui avait été fait par Ivan III. Il va être complété et organisé véritablement par Ivan IV, qui sera plus tard Ivan le Terrible. Et c'est un code des lois qui est très, je dirais, très parfait, qui essaie de protéger le justiciable, qui essaie d'avoir une justice qui n'est pas corrompue. C'est un bon législateur, c'est le premier point. Il élabore aussi ce qu'on appelle le Damastroï, c'est-à-dire le grand ménagier. C'est l'organisation de la vie des gens, de leur vie morale, de leur vie matérielle.
Un petit peu, si
absolument.
On veut,
oui. Et aussi de leur vie morale. Et puis, il fait une réforme administrative qui est capitale, qui essaye. C'est intéressant parce que vous avez évoqué les échos contemporains. C'est toujours le problème entre centralisation et décentralisation. Il veut avoir des autorités élues à la base qui tempèrent le pouvoir central. Vous voyez la sagesse du personnage. On est très loin de ce que vous avez raconté pour la suite. Et il fait une réforme militaire parce que la Russie n'a pas de véritable armée à cette époque-là. C'est là qu'il crée les Strelitz, les mousquetaires, le régiment des mousquetaires qui est le début d'une
avant
armée de métier.
Avant les Opechniki, oui, c'est ça.
Voilà. Il se lance aussi dans une réforme extrêmement importante parce que c'est tout le rapport avec la noblesse, avec les fameux boyards. Il invente les fameux enfants de boyards, ce qui est 1068 jeunes gens qui sont des enfants de la toute petite noblesse ou des enfants de citadins. Il en fait ce qu'il appelle les nobles de Moscou. Et il constitue, au fond, une nouvelle noblesse qu'il oppose à l'ancienne noblesse. C'est-à-dire qu'il montre à la noblesse, aux boyards qu'il veut casser, qui sont les anciens princes apanagés et leurs parents, il veut leur montrer qu'il peut toujours faire surgir de nouvelles élites. Tout cela est extraordinairement raisonnable.
Ce qu'on lit à travers tout ce que vous dites, c'est une phénoménale volonté de puissance, évidemment, et qui d'ailleurs s'est en partie accomplie. Vous parliez d'accent contemporain. Il faut que nous revenions sur les origines de l'Ukraine, de la place et la question de la Crimée, etc. Si vous voulez, nous faisons ça dans un instant, parce parce que pour nos auditeurs, c'est très important aussi de comprendre ce que la situation d'aujourd'hui doit à celle, non pas d'hier, mais d'avant-hier.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Prokofiev sur Europe 1, un extrait du ballet Roméo et Juliette, c'était la danse des chevaliers. Vous nous parlez cet après-midi dans Au cœur de l'histoire d'Ivan le Terrible, Franck Ferrand, avec votre invitée Hélène Carrère-Dancausse de l'Académie française, historienne de la Russie.
Alors Hélène Carrère-Dancausse, j'ai revu, disais-je hier soir, le film d'Eisenstein, et on voit quand même un Ivan qui est aussi un stratège, qui est un combattant, et qui va notamment être le vainqueur de Kazan, d'Astrakhan.
Oui, c'est lui qui a réduit véritablement les Tatars, qui avaient supprimé l'indépendance des principautés russes, de Kiev, qui avait tué Kiev.
Ces Tatars, en deux mots
C'était les Mongols venus d'Asie, et qui, sous la forme de la Horde d'Or islamisée, ont créé des émirats dans le sud de la Russie.
C'était donc
ce qui sera la Russie.
Des musulmans, il faut dire.
Mais les Mongols ne l'étaient pas. Voilà. Ils se sont islamisés, ceux-là. Et les grands émirats sont Kazan, Astrakhan, et ça s'appelle les Khanats de Crimée. Et Ivan va conquérir en 1552 Kazan, ce qui est formidable, c'est un très haut lieu spirituel. Ensuite, en 1556, Astrakhan, mais il n'aura pas la Crimée. À la Crimée, qui est un sujet d'actualité aujourd'hui. Et on peut dire que toute la steppe qui entoure ce sud de la Russie, qui sera plus tard la Crimée, l'Ukraine, toute cette steppe, elle est sous l'autorité de deux grands États qui dominent véritablement le voisinage de la Moscovie devenue Russie. C'est la Pologne, et la Pologne-Lituanie et la Livonie. Ce sont eux qui font peser une menace très, très grande, les Tatars au sud et ceux-là au nord.
Et ce sera l'obsession, on peut dire ça.
Ce sera l'obsession, il leur fera des guerres sans arrêt.
Il faut peut-être que nous revenions, même si c'est légèrement hors sujet, moi je n'aime pas trop le hors sujet, mais là quand même, étant donné les circonstances, que nous revenions sur la place de l'Ukraine dans tout ça. Parce qu'on a cité Kiev à deux ou trois reprises déjà depuis le début de cette émission. C'était bien le berceau au départ
Kiev, c'était le berceau, ça a été le berceau de la Russie. C'est le berceau du christianisme russe. C'est puisque Vladimir a baptisé à Kiev ses compatriotes, qui ensuite, précisément devant l'invasion de la Horde d'Or, sont partis vers le nord de la Russie et ont fondé la Moscovie. Mmh. Et on peut dire que c'est là, vous avez évoqué tout à l'heure, le grand incendie de Moscou, qui a eu lieu tout à fait au début de la jeunesse, au moment où Ivan le Terrible va devenir le tsar de la Russie. Et c'est immédiatement, tout de suite après, se déclenche l'incendie de Moscou. Or, au moment du baptême, Vladimir, qui baptise la Russie, a jeté à l'eau et détruit toutes les statues du dieu de la foudre, ce qui est très important, Péroun, le dieu de la foudre et du feu. Et on peut dire que chaque fois qu'il y a des incendies à Moscou, il y en a tout le long du règne d'Ivan le Terrible, parce que Moscou est construit en bois, c'est considéré comme la revanche du dieu Péroun, c'est-à-dire la revanche du paganisme sur le baptême de Kiev.
Sur la nouvelle religion, oui.
Exactement.
Alors, il me semble, ça m'est venu à l'esprit en lisant l'ouvrage de Henri Troya, que trois morts essentielles ont jalonné la vie d'Ivan et qu'à chaque fois, son tempérament évolue. La mort de sa mère d'abord, absolument fondatrice, puisque c'est le début à 8 ans d'une forme de prise de conscience politique chez lui qui va aboutir à cet homme grand législateur, grand administrateur que vous nous avez décrit et sur lequel on a tendance à ne pas suffisamment insister. La mort de son épouse, Anastasie, qui va le faire basculer dans cette espèce de frénésie, de cruauté, de vengeance permanente. Et c'est le début de la terreur, si je puis dire. Et puis, la mort par sa propre main de son fils, Ivan, qui s'appelle également Ivan, et qui là va le jeter dans la religion, dans le mysticisme. Il était déjà très religieux, mais là, il devient une sorte de moine sur la fin de ses jours.
Chaque fois qu'il commettait des excès, ou chaque fois qu'il se passait une tragédie, notamment, ça commence par l'incendie de Moscou en 1547. Il fait pénitence en 1547, il a demandé pardon sur ce qui est la place rouge face au Kremlin, à toute la Russie. Bon, il a ses accès de repentir extraordinaires, mais on peut dire, bon, la mort de sa mère a été fondatrice, mais sa mère était cruelle. D'une certaine façon, c'est probablement contre cette cruauté, pour l'apaiser, qu'il a été ce réformateur. En 1560, la mort d'Anastasia, ça change tout, c'est la rupture. Elle était l'élément apaisant et il va se déchaîner, il sombre et dans la débauche. Vous l'avez dit, dans une débauche effrénée, il aura d'ailleurs 7 femmes, il prétendra épouser la reine Élisabeth d'Angleterre en étant bigame. À la fin de sa vie, il prétendra épouser une cousine de la princesse, une cousine lointaine de la reine d'Angleterre en étant là encore marié. Ça posera des tas de problèmes. Il n'avait aucune retenue à cet égard. Mais surtout, ça le lance dans cette cruauté que vous avez décrite et qui tout de même est une cruauté qui va casser d'une certaine façon l'État, car il invente l'opricinina, c'est-à-dire ce système effrayant de pouvoir qui divise le pays en deux, avec des 6 000 puis 10 000 assassins, à la seule dirigée par les frères, par le père et le fils Basmanov, et par Skouratov, qui est un personnage qu'on voit dans tous les films, un personnage mythique, terrifiant.
Et Basmanov sont ses favoris, en quelque sorte.
Favori, c'est le fils, et le père, c'est l'homme de main. Et on ne sait pas quelles ont été les relations avec le fils. En tout cas, ces hommes tout habillés en noir avec un balai qui pend sur leur cheval ont la haute main sur la moitié du pays. La moitié du pays qui est le pays de l'illégalité. Il se trouve que c'est le centre de la Russie, la vieille Russie. C'est-à-dire là où il y a toujours les princes apanagés, surtout les anciens, les boyards dont il a peur. Et à la périphérie, c'est encore le pays légal. Et là, ils n'ont pas... La haute main, ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. C'est très intéressant parce que c'est un projet politique, mais un projet politique qui annonce l'État stalinien hein, d'une certaine façon. Alors, la mort de sa femme, donc, l'a cassé. La mort du fils, c'est tout à fait autre chose. Il avait déjà perdu son premier fils et héritier, Dimitri, qui était mort à quelques mois. Il met tous ses espoirs dans cet Alexis, qui est vraiment le fils intelligent, cultivé que vous avez évoqué. Mais en même temps, ce fils est aussi un regard, d'une certaine façon, ne lui inspire pas confiance. Et il lui inspire d'autant moins confiance qu'il a, à un moment donné, le sentiment que le fils, la noblesse s'accroche au fils, considérant qu'il n'est pas dans les guerres qu'il conduit à partir de 1578-1580, considère qu'il n'est pas un bon chef de guerre. Et les nobles, en 1580, viennent lui suggérer de laisser son fils prendre la tête des affaires et même lui suggère de laisser le pouvoir à son fils. Il a le sentiment que son fils est à la tête d'un complot. Son fils a beau s'en défendre. Il y aura entre eux une scène effroyable. Et là, dans un accès de colère, il avait toujours un pieu. Ce pieu, d'ailleurs, quand Kourbski lui avait envoyé son serviteur pour lui faire part de sa défection, il avait tué à coups de pieu. Il lui avait planté le pieu dans le pied. Et le pauvre serviteur avait dû lire cette lettre avec le pieu cloué par le pieu clouant son pied. Après, le serviteur a été mis à mort. Et ben, c'est ce même pieu que, dans sa colère, il a planté dans le cœur de son fils. Et son fils est mort au terme d'une longue agonie.
Oui, c'est
justement ce qu'il... Il a assisté à l'agonie du fils. Il avait déjà été convaincu que sa femme, Anastasia, avait été empoisonnée. Mais là, c'était les autres. Et ça a déchaîné sa fureur contre les autres. Là, c'est lui-même. Et ça a été, évidemment... Tout y est. D'abord, il considère que son troisième fils, Féodor, est semi-débile et qui ne peut pas assumer le pouvoir, donc il faut que quelqu'un d'autre prenne le pouvoir, et ça sera sa dernière démarche, trouver une autre lignée pour lui succéder.
Il y aura un autre Dimitri. Exactement. Enfin, ça c'est une autre histoire.
C'est, ouais. C'est Dimitri Douglitch. Ouais. Mais la tragédie pour lui, c'est d'abord qu'il a cassé la lignée successorale, et puis il a versé le sang des siens. Il avait déjà versé le sang de son cousin Germain, Vladimir de Staritsa, qu'il avait fait assassiner. C'était le début, je dirais, des meurtres de son propre sang. Mais son fils, c'est pire que tout. Et là, on peut dire qu'incontestablement, il commence
réagir,
à sombrer.
Oui.
Et qu'il entre dans cette période où, véritablement, il se tourne vers Dieu. Mais sa mort a été très curieuse, parce que quand il est tombé véritablement malade, il a eu des hauts et des bas. Et d'ailleurs, son entourage avait très peur de lui, parce que périodiquement, il tombait malade, il feignait une maladie, il en profitait pour constater qu'il y avait des complots autour de lui. À ce moment-là, il tuait tous ceux qui s'étaient montrés infidèles. Et en fait, comme tout le monde avait peur de lui, tout le monde entendait profiter de la maladie. Ça s'était passé en 1553, ça s'est passé en 1564. Il y a eu des épisodes comme ça. Donc là, il a eu des hauts et des bas. Les derniers jours, il paraissait aller mieux. Et puis, mais il n'arrêtait pas d'invoquer Dieu. Il ne faut pas oublier qu'il avait fait mourir le métropolite Philippe, d'une façon épouvantable. Il l'a fait étrangler par Skouratov. Donc il avait avec Dieu des rapports effrayants. Oui. Cela dit, quand il est mort, il était en train de jouer aux échecs, il s'est effondré, Et dès qu'il est mort, le métropolite est venu, l'a revêtu de la tenue monacale, et là, il lui a fait signer l'acte, il a prononcé l'abdication du trône, et il l'a nommé, il l'a désigné comme moine sous le nom de Johann. Donc, si vous voulez, il est entré dans l'éternité. Vous
comme
avez
un
évoqué
moine.
L'absolution comme un moine.
Voilà le terme que je cherchais, l'absolution. Là, vous terminez l'émission par ce terme même, Hélène Carrère-Dancausse. Merci beaucoup d'avoir évoqué ce personnage dont on a bien compris qu'il est d'une subtilité, qu'il est un paradoxe vivant en quelque sorte. C'est très intéressant. J'aurais bien aimé qu'on ait le temps de parler des lettres à un félon. C'est cette correspondance entre le tsar et le prince Andrei Kourbski, hein, qui était passé au Polonais, passé à l'ennemi. C'est édité à l'œuvre. Je ne peux que renvoyer nos auditeurs à cet ouvrage, comme à tous les vôtres, bien entendu. Le dernier en date, Les Romanov, une dynastie sous le règne du sang. C'est paru au printemps dernier chez Fayard.
Et les Romanov, ils sont des descendants de la première femme, des parents de la première femme d'Ivan le Terrible.
Anastasia Romanovna. Merci beaucoup, Hélène Carrère-Dancausse.
Dans un instant sur Europe 1, vous répondrez, Franck Ferrand, à la question de Tristan sur les origines des comptines pour enfants.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Retour aux origines.
Et vous répondez cet après-midi, Franck Ferrand, à la question de Tristan. Il nous l'a envoyé via le site internet d'Europe 1 et il aimerait connaître l'origine des comptines pour enfants.
Oui, et dans sa question, Tristan fait précisément référence à deux chansons, il pleut bergère et Le bon roi d'Agobert. Alors ce ne sont pas tout à fait des comptines. Alors bon, déjà ce sont des chansons politiques. Le bon roi d'Agobert, c'est une chanson qui date des environs des années 1750, à une époque où l'opinion publique en pleine formation est en train de se lever contre Louis XV. On n'ose pas attaquer évidemment le roi directement, enfin certains ne s'en privent pas, mais c'est une manière évidemment de ridiculiser le roi et la royauté en s'attaquant à quelqu'un qui ne risque pas de faire grand mal puisque c'est le roi des Francs d'Agobert Ier, roi du 7e siècle, dont on a à peu près tout oublié. Donc évidemment, c'était assez facile de le tourner en dérision. La chanson sera reprise sous Louis XVI. Elle sera ensuite reprise encore sous Napoléon III. Vous voyez qu'elle devient donc une sorte de petite référence anti-monarchique, d'une certaine manière. Le cas d'Il pleut bergère est encore plus frappant. C'est tiré de l'opérette Laure et Pétrarque, qui avait été écrite par Fabre d'Églantine en 1780. D'ailleurs, lorsque Fabre d'Églantine montra à l'échafaud en 1794, on dit qu'il sifflotait comme une ultime bravade ce petit air bien connu. Et c'est une référence là transparente aux mœurs de la reine Marie-Antoinette, bien entendu, qui dans son hameau, dans le parc de Trianon, élevait des moutons, n'est-ce pas? Et on sent venir l'orage, voici l'éclair qui lui. Ce ne sont pas tout à fait des comptines, les comptines ce sont plutôt des chansons pour enfants, comme on en trouve beaucoup dans le monde anglo-saxon ou dans le monde russe. Voici par exemple ce qu'on entend chez Moussorgski dans Boris Godounov, c'est la chanson du perroquet. Voilà, petit clin d'œil ultime à la Russie pour aujourd'hui. Bonjour Elena Mornam.
Bonjour Franck, bonjour à tous. Alors le printemps, vous le savez, c'est la saison des régimes et on a décidé avec les experts européens de vous réconcilier avec votre assiette et avec votre poids. Avant de vous lancer dans les régimes des magazines, je vous propose d'éliminer les kilos que votre tête réclame malgré des privations. Vous grossissez, contactez-nous au 3921 ou sur europe1.fr. L'objectif, vous l'avez bien compris, c'est la réconciliation.
Voilà. Émission que je vais écouter de mes
vous
deux oreilles.
Vous n'avez pas besoin, vous êtes parfait.
Merci beaucoup Elena. Bon anniversaire à Nicolas qui est aux manettes de cette émission. Bon anniversaire. Tout le monde est en train d'applaudir en régie. Et nous nous retrouvons demain, Céline.
Avec grand plaisir, Franck. À demain.